c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au menu aujourd'hui, l'info du jour, la fumée des incendies canadiens qui arrivent dans le ciel breton. Compte rendu de la séance du conseil municipal du lundi 26 juin, il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview avec deux animatrices de la coopérative jeunesse de service qui a encore des places pour cet été, et puis recommandation, le forum logement du 4 bis, information jeunesse. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour. La fumée des incendies canadiens qui survolent le ciel français et notamment breton ce mardi 27 juin. Depuis le début de l'année, plus de 7 millions d'hectares de forêt ont brûlé au Canada, conséquence de plusieurs mois de sécheresse dans un contexte de réchauffement climatique. Et on précise que l'origine des départs de feu est le plus souvent accidentelle. L'ensemble du territoire canadien est concerné. La situation pourrait bien durer tout l'été, lit-on dans certains médias. Dimanche, 27 feux étaient toujours hors de contrôle avec le déplacement de pompiers français sur ce territoire canadien il y a deux semaines pour, vous l'imaginez, apporter des renforts humains. Et cette actualité, elle arrive donc à nos oreilles, ou plutôt à nos nez, avec des fumées de ces feux qui sont arrivés sur le territoire français et breton d'abord ce mardi 27 juin. Vous avez peut-être remarqué un ciel laiteux en vous réveillant. Il s'agit bien de particules transportées sur 6000 km par un courant océanique et qui pourraient rester sur le territoire français jusqu'à vendredi d'après les météorologues. Airbraise, association agréée de surveillance de qualité de l'air, se veut rassurante mais reste vigilante. Les concentrations de fumée sont beaucoup plus faibles que de l'autre côté de l'Atlantique. Pas d'impact donc sur la qualité de l'air et les précipitations attendues jeudi devraient permettre aux particules de retomber avec des dépôts possibles au sol mais aussi sur les véhicules stationnés. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure du tant attendu compte-rendu de conseil municipal. Et on passe à l'habituelle chronique de conseil, car lundi 26 juin, c'était un soir de conseil municipal à la ville de Rennes pour les 61 conseillers et conseillères de la municipalité. Une séance avec 97 points à l'ordre du jour, pour une séance qui a duré en tout près de 5 heures. Cette séance de conseil municipal, elle débute toujours par une parole laissée aux habitants, puis aux groupes politiques. Je les cite, ces groupes, il y a le groupe socialiste qui, avec le groupe écologiste Génération, le mouvement radical et le groupe communiste formé la majorité, et puis l'opposition avec le groupe Renaissance Révéler Rennes et l'Union de la droite Libre d'agir pour Rennes. Carole Gandon du groupe Renaissance Révéler Rennes en a profité pour, elle, tirer un bilan de mi-mandat. Extrait.
J'espère ne pas vous surprendre, Madame la maire, en vous disant que le premier sujet d'angoisse et de colère, c'est celui de l'insécurité qui s'est abattue sur notre ville depuis plusieurs années et qui pourrit le quotidien des habitants dans les quartiers comme dans le centre-ville. On peut désormais, à Rennes, en plein après-midi, être témoin d'un meurtre par balle ou à la machette. Si la montée de la criminalité n'est évidemment pas de votre responsabilité directe, c'est une nouvelle donne, Madame la maire, qui appelle des réponses courageuses qui vont bien plus loin que vos promesses électorales de 2020.
Et plus loin pour cette conseillère d'opposition, ça veut dire plus de vidéosurveillance, mais aussi plus d'armement et de formation pour la police municipale. On a retrouvé un propos de la même couleur du côté du groupe d'Union de la droite Libre d'agir pour Rennes. L'un des autres thèmes plusieurs fois abordés par les autres groupes politiques, notamment écologistes, socialistes et puis Génération, c'est le dérèglement climatique, aujourd'hui illustré par les giga incendies au Canada, dont les fumées survolent la France ce mardi 27 juin. Point numéro 1 de la séance, on y va. Il s'agit de l'agrandissement et de la restructuration du restaurant scolaire de l'école Clémenceau dans le quartier Bréquigny. Un budget d'1,8 million d'euros y sera consacré et les travaux seront menés jusqu'à fin 2025, début 2026, avec à terme 150 mètres carrés de surface supplémentaire et puis un ensemble modernisé et plus performant énergétiquement. Au-delà de cette école, un ambitieux programme d'investissement dans le patrimoine scolaire est en cours avec la construction construction, par exemple, de 3 nouveaux groupes scolaires en plus de travaux de rénovation. Réaction du groupe Renaissance révélée Rennes à travers la voix d'Antoine Cressard pour alerter sur le cas d'une autre école, celle du Colombier. On en a déjà parlé dans l'émission d'information locale la semaine dernière. Je vous laisse écouter la réponse de la conseillère municipale adjointe déléguée à l'éducation, Gaëlle Rougier.
Si l'école Colombier était la seule école rennaise qui nécessitait des travaux importants et dont le bâti était un peu vétuste, effectivement, on pourrait penser que c'est complètement incompréhensible que cette école n'ait pas été rénovée plus tôt. Sauf que la réalité du bâti scolaire, elle n'est pas celle-ci. C'est-à-dire que l'école Colombier et d'autres écoles à Rennes, qui datent, qui ont été construites dans les années 60-70, ont besoin de travaux, et ces bâtiments arrivent un peu tous à la même époque, au même niveau, on va dire, d'usure, et nécessitent des travaux.
On reste avec le groupe Renaissance Révélée Rennes qui a profité d'une délibération sur un dossier sport et jeunesse pour parler pêche. Pour faire simple, ce groupe politique apporte son soutien à la Fédération départementale de pêche qui est en colère contre l'interdiction de la pêche sur les étangs d'Apigné. Une décision qui fait en fait partie de la charte rennaise sur la condition des animaux adoptée en conseil municipal au mois d'avril. Le groupe Révélée Rennes, explique le conseiller Antoine Hénault, rappelle qu'ils ont voté en faveur de cette charte, je cite, afin de ne pas entraver l'ensemble du texte. Mais ils font aujourd'hui la demande suivante.
Cette décision se cache derrière un faux prétexte écologique pour mieux dissimuler un antispécisme mondain et citadin. Pour rappel, on compte 1,5 million de pêcheurs en France, dont 21 000 en Ille-et-Vilaine et environ 4 000 à Rennes. Je ne pense pas que qualifier leur position de nuisible fasse avancer la cause écologique d'une quelconque manière. Je veux ici saluer le travail formidable de la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine qui œuvre auprès des associations, des centres de loisirs et des écoles afin d'offrir à des enfants et adolescents des moments de plaisir au bord de l'eau dans un environnement sain et naturel. Les conséquences de l'exécution de cette décision contribueraient à entraver cette activité, mais il n'est jamais trop tard pour reconnaître que l'on a fait une erreur et pour tenter de la réparer. Ainsi, nous vous encourageons à accepter un dialogue ouvert et constructif avec la Fédération et à réviser la charte sur ce point précis.
Antoine Hénault, conseiller municipal du groupe Renaissance Révélée Rennes. On écoute maintenant une partie de la réponse apportée par la majorité à travers la voix du conseiller municipal délégué adjoint à la biodiversité, Didier Chaplon.
Il s'avère, je tiens à votre disposition les comptes rendus des bilans de la saison de baignade aux étangs d'Apigné ainsi qu'un rapport d'un bureau d'études. Il s'avère que les APA contribuent à la prolifération des cyanobactéries sur l'étang d'Apigné. Voilà, donc il faut le savoir, il y a de multiples causes. C'est notamment dû au fait que l'eau se renouvelle très peu sur les étangs d'Apigné. Mais l'adaptation au réchauffement climatique, le fait qu'il y ait plein de gens qui ne vont pas à la mer, on a accès ici le seul endroit à Rennes où on peut nager dans une eau vive, il est important qu'on mette tout de notre côté pour avoir une eau de bonne qualité, c'est-à-dire sans cyanobactéries, parce que c'est surtout un problème de cyanobactéries qu'il y a dans cet étang.
Didier Chaplon qui a précisé que la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine n'avait pas souhaité participer aux ateliers en amont de la charte de l'animal en ville. La porte reste toutefois ouverte pour rejoindre le comité consultatif qui s'est lancé après l'écriture de cette charte. Les points numéros 18, 21, 22, 23, 24 et 25 concernaient des attributions de subventions à des associations, plus de 400, qui se partageront une enveloppe de plus de 380 000 euros. Des structures qui sont très variées, et c'est ce qui titille Charles Compagnon du groupe d'union de la droite Libre d'agir pour Rennes. Il semble en fait très embêté par une subvention de 2187 euros pour l'association Déconstruire. On a plusieurs fois reçu cette structure qui développe des outils pour lutter contre le racisme systémique ambiant.
Pour très rapide rappel, cette association avait organisé un colloque subventionné qui, au regard du profil de l'ensemble des intervenants, était surtout un événement politique qui promouvait une idéologie que l'on peut sans aucun doute qualifier d'indigéniste ou décoloniale. Pour mémoire, si ça vous embête, c'est ça. Pour mémoire, bien sûr, parce que je vais dire la suite, écoute-moi mon grand. Pour mémoire, il animait une formation qui interpellait sur le racisme systémique du manager blanc face aux salariés racisés. Voilà, c'est le thème. Je vous le redis, je vous l'avais dit en décembre 2021. Je pense que la liberté associative a aussi ses limites et que si une association identitaire faisait une demande de subvention vous trouveriez la bonne justification pour leur refuser à juste titre.
Rosanne Andreau, conseillère municipale déléguée à la vie associative, lui a ensuite répondu.
Peut-être qu'à un moment donné, il sera aussi nécessaire d'accepter en fait les principes qui animent la politique de la vie associative et globalement la politique de soutien aux associations qui contribuent aux politiques publiques dans cette ville. En effet, vous avez pu exprimer un désaccord avec cette association. C'est votre droit. Le principe qui anime la vie associative et le soutien aux associations rennaises ici, je l'ai dit dans le propos, mais de manière assez anodine, c'est la question du pluralisme, de la liberté de pensée, de la liberté d'expression. Lorsque une association est hors du cadre légal, aujourd'hui il y a une batterie juridique suffisamment étayée pour permettre, on est hors la loi, et bien finalement que le droit s'applique et qu'il y a un rappel à l'ordre aux associations. Dès lors qu'elles sont dans un rôle d'interpellation, dans un rôle pour le coup d'animation du débat public et des questions vives qui font pour le coup la richesse aussi et la diversité des points de vue dans le débat public, elles contribuent activement à la liberté de conscience d'un et de deux, à notre capacité à animer des débats conscients et étayés à l'échelle de la ville. Et qu'il est hors de question ici qu'à chaque fois qu'on attribue pour le coup des subventions dans un cadre pour le coup de pensée contradictoire, s'affiche ici la question finalement du contenu de ce qu'elles font.
Merci beaucoup, Madame Andreau, d'avoir...
Explication de vote, Madame la maire.
Pardon, je suis simplement en train de compléter la réponse de Madame Andreau, si vous me le permettez, Monsieur Compagnon.
Explication de vote.
D'abord, on lève la main. Ensuite, je vous donne la parole. Et là, en l'occurrence... j'étais en train de compléter cette réponse. Ça va, oui? Il y a aussi des règles. Je ne crois pas qu'on puisse avoir le respect des règles à géométrie variable. Je me permettais de compléter la réponse de Madame Andreau. Pardon, Monsieur Compagnon, vous pouvez...
Yannick Nadezan, arrête pas de me faire des signes.
On n'est pas à l'école. C'est vous-même qui l'avez dit.
L'irrespect.
Et simplement...
Et là, c'était la voix de la maire socialiste Nathalie Appéré. Le conseil municipal, c'est parfois aussi ça, des moments de tension, de flottement. Prise de position similaire dans le groupe Renaissance Révélé Rennes qui vote la délibération en question, mais s'inquiète aussi du versement de subventions à des associations aux prises de position antisionistes, racialistes ou en faveur de la désobéissance civile. Concrètement, on parle de structures qui ont pu tenir des propos critiques vis-à-vis de l'État d'Israël, de structures qui dénoncent le système raciste en France, ou encore de militants écologistes qui alertent comme ils peuvent sur l'inaction face au changement climatique. On passe au point 56 et 57, il est question de stationnement. Alors petit 1, à partir de 2024, des voitures LAPI circuleront dans Rennes. Objectif, lutter contre le stationnement gênant et les voitures dites ventouses, celles qui restent un petit peu trop longtemps sur des places de stationnement gratuits. Les automobilistes pouvaient jusqu'à aujourd'hui s'opposer à l'enregistrement de leur numéro d'immatriculation, ce qui ne sera bientôt donc plus le cas. Et la loi l'y autorise dans le cadre du fameux RGPD, le Règlement Général de Protection des Données. Petit 2, le stationnement payant, il va s'étendre à 1070 places supplémentaires dans les mois à venir. En septembre dernier, en 2022, 1200 autres places avaient déjà connu ce même changement. Cette fois, les secteurs concernés sont la zone d'aménagement concernée de Guine, dans le quartier Arsenal-Redon, ça c'est à partir du 1er septembre, puis le quartier Sud-Gare Villeneuve à partir du 1er novembre, et puis Sud-Gare, mais cette fois côté Sainte-Thérèse, à partir du 1er décembre. Explication du pourquoi avec Valérie Faucheux, conseillère adjointe déléguée aux mobilités.
Dans ces quartiers, aux abords de stations de métro, de la gare et en proximité du centre-ville élargi, les habitants nous font part très régulièrement de leurs difficultés de stationner. L'habitude de laisser sa voiture au plus près des pôles d'échange à la journée, voire plusieurs jours ou même voire plusieurs semaines, génère de plus en plus de difficultés alors que les parkings publics ne sont pas occupés pleinement. Le domaine public est un bien commun qu'il nous faut partager au bénéfice des riverains, bien entendu, mais aussi des activités commerciales. et surtout en faveur de l'adaptation de la ville au réchauffement climatique et ainsi nous permettre quelques années plus tard de retrouver sans doute de l'espace pour davantage végétaliser, désimperméabiliser nos espaces publics, favoriser l'autopartage. À ce titre, je précise que Citedia développera de nouveaux services d'autopartage au mois de septembre puisque c'est 24 nouvelles voitures qui seront positionnées dans la ville. Il s'agit aussi de développer des places de stationnement vélo qui manquent cruellement parfois dans certains secteurs, élargir les trottoirs et ainsi remettre la voiture à sa juste place.
En tout, ce sont 9000 des 60000 places de stationnement qui seront désormais payantes dans Rennes. Un élément de réponse à la question de la conseillère d'opposition, Carole Gandon.
Avez-vous l'intention de faire passer d'ici la fin du mandat toute la ville en stationnement payant ?
Carole Gandon, conseillère municipale, dont le groupe s'abstient donc sur ce vote. Ensuite, il a été question d'aménagement avec le point 62 de cet ordre du jour du conseil municipal à la ville de Rennes. L'ancien site du centre hospitalier appelé Bois Perrin va s'ouvrir sur la ville. On est dans le quartier Jeanne d'Arc, Longchamp, Beaulieu, où plusieurs hectares vont être consacrés à une nouvelle zone d'aménagement concertée, une ZAC qui devrait être labellisée éco-quartier. On y trouvera à terme des bâtiments patrimoniaux des années 30 réhabilités pour accueillir 50 logements. Également la création de 330 autres logements collectifs cette fois, une crèche mais aussi des services et commerces de proximité et puis deux espaces verts. Les travaux débuteront fin 2024 et s'étendront jusqu'en 2030, un projet jugé trop dense pour l'opposition à droite. Le point numéro 81 sur les créations, suppressions et transformations d'emplois au titre de l'année a été l'occasion de revenir sur le sujet tendu des ASEM, sujet évoqué par la maire socialiste Nathalie Appéré lors du point presse juste avant ce conseil municipal. On le rappelle, depuis la fin du mois de mai, les ASEM, agents spécialisés des écoles maternelles, sont en grève 2 jours par semaine, remontés contre la suppression annoncée par la ville de leur pool de remplacement. La maire s'est finalement dite prête à suspendre la suppression de ce pool si les ASEM cessent leur grève. Et donc en conseil, c'est la conseillère Laureline du Plessis d'Argentré du groupe Renaissance Révélé Rennes qui a pris la parole car elle s'interroge sur, je cite, les méthodes de gestion du personnel municipal. La conseillère municipale aux ressources humaines et au dialogue social, Emmanuelle Rousset, reconnaît certaines erreurs, en tout cas en partie.
Il s'agissait d'une réorganisation de gestion courante. Cela n'appelle habituellement aucune communication spécifique auprès des bénéficiaires, ici les enfants et leurs parents. C'est de la cuisine interne, avec des guillemets. Il s'agit d'un travail mené avec les directions d'école et les agents, toujours dans le sens d'un meilleur service aux citoyens, tout en assurant ces conditions décentes. Nous avons néanmoins été maladroits sur la méthode initiale et l'articulation des différents niveaux d'information. Nous comprenons que la complexité de l'organisation actuelle ait pu dérouter certains parents, alors que cette mesure devait au contraire les rassurer sur la prise en compte de ce qu'ils vivent au quotidien. Nous avons très vite réagi et tiré les enseignements de cette impaire de forme. Les 7 rencontres de nos services ou de Gaëlle Rougier et moi-même avec les organisations syndicales depuis le 22 mai sur ce dossier le prouvent. Ce 21 juin, à la demande de l'intersyndicale, nous avons proposé de suspendre la réorganisation pour réétudier les modalités de remplacement à moyen constant et sortir de cette situation de blocage par une série d'ateliers avec les ASEM. Cette maladresse initiale est très vite rattrapée, n'excuse en aucun cas ni les modalités de grève excessive, ni la circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux, dans les échanges à la sortie d'école ou encore dans la presse.
Et dernier point, le point numéro 96, il était question de modalités de facturation des activités périscolaires et extrascolaires, un sujet un peu complexe et comptable, dont a profité Laureline du Plessis d'Argentré, toujours elle, pour le groupe Renaissance Révélé Rennes, pour soulever un problème, celui de la difficulté à trouver une place en accueil de loisirs. On l'écoute.
À ce jour, il y a par exemple 27 jours affichés complets au centre de la Prévalais. Seulement 2 jours disponibles en juillet, sur les 40 jours d'ouverture. La dernière semaine d'août était complète le jour même de l'ouverture des inscriptions. Les familles dont le planning ne peut pas être défini plusieurs semaines, voire plusieurs jours à l'avance, sont désemparées, essaient de trouver des solutions alternatives complètes aujourd'hui. Comment faire quand on ne peut pas faire appel à la solidarité familiale ? Comment faire quand les obligations professionnelles s'imposent aux contraintes familiales ? Il y a quelques années, le système était simple. Les enfants étaient déposés sans réservation préalable et accueillis quoi qu'il arrive. Nous ne disons pas que la réservation n'est pas nécessaire pour notamment assurer un encadrement correct et éviter le gâchis alimentaire. Néanmoins, n'y a-t-il pas une solution plus souple que l'actuelle qui permette aux familles de pouvoir compter sur ce service public ?
C'était plus simple avant car il y avait moins d'enfants, lui a répondu Gaëlle Rougier, adjointe déléguée à l'éducation, avec un autre problème, celui de la surréservation. En gros, certaines familles réservent pour tout l'été et n'y mettent pas toujours leurs enfants et ils sont pourtant facturés. Ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau lieu sera un jour nécessaire, un dossier à suivre. Prochain rendez-vous pour les conseillers municipaux de la ville de Rennes, ce sera après les vacances d'été, le lundi 18 septembre, toujours à 17h. En attendant, toutes les séances sont à voir en replay sur le site internet métropole.rennes.fr. Barcellini, une nouveauté musicale qui a été repérée par notre programmateur Yann Barbotin. Pas si nouvelle que ça, puisque c'est un extrait de la compilation Swing, sortie chez Born Bad Records le 26 mai dernier. Compilation qui réunit 40 thèmes issus de bandes originales des films de Jacques Tati, réalisateur français incontournable. Et vous avez peut-être reconnu là ce morceau qui vient de passer, tiré du film Mon Oncle, sorti en 1958. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur le site canalb.fr, c'est l'heure d'une interview. Célia et Lucie, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes animatrice dans une CJS, une coopérative jeunesse de services, on va expliquer ce que c'est, qui va se mettre en route cet été dans le secteur à Rennes-Sud. On commence par redire ce que c'est cette CJS et de qui vous dépendez. C'est en fait un projet plus gros que juste votre CJS à vous.
Oui, bah en fait, c'est ça la CJS, ça veut dire Coopérative Jeunesse de Service. C'est un projet qui est porté par le CRIC. Et l'idée, c'est qu'on accompagne avec Célia un groupe de jeunes, d'une quinzaine de jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, à monter et à gérer, en fait, de A à Z, eux-mêmes, leur entreprise éphémère, le temps de l'été.
peut-être dire que ce CRIC, c'est la coopérative régionale d'éducation à l'entrepreneuriat collectif, structure que je ne connaissais pas, qui est installée au Quadri, ce bâtiment consacré à l'économie sociale et solidaire tout près de la station de métro au Triangle, une coopérative qui a été lancée en 2018 et qui mène plusieurs projets, dont ces coopératives jeunesse de services qu'on trouve ailleurs qu'à Rennes. On les trouve sur 8 territoires, notamment à L'Envolon, Loudéac, Valquenon, Guipry-Messac, Châteaubourg, Saint-Malo et donc Rennes. C'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui. Pour la CJS, la coopérative jeunesse de services Rennes Sud, c'est la maison des jeunes et de la culture de Bréquigny qui va accueillir ce projet, et c'est le moment où on dit qu'il y en a donc une autre installée à Rennes. On fait la communication pour ces deux CJS là au nord de Rennes, et qui est-ce qui les accueille?
C'est le timbre à Morpa, du coup.
Le timbre de Morpa, qui est, on va le dire, un tiers-lieu consacré à l'artisanat dans le quartier de Morpa. On revient à cette coopérative jeunesse de services que vous animez, que vous animerez toutes les deux, Célia et Lucie. C'est pas la première année d'activité, il y a toute une histoire derrière.
Oui, c'est ça, c'est la 10e ou 11e édition. Et chaque année, c'est des animateurs différents qui viennent animer cette CJS.
Et donc, cette année, c'est vous deux qui allez piloter ce projet. On le redit, la catégorie d'âge pour candidater, participer à cette coopérative, c'est 16-18 ans. Comment est-ce qu'on l'explique? C'est qu'il y a des jeunes qui ont déjà des envies de travailler, mais qui sont peut-être pas facilement embauchables dans des entreprises classiques. C'est peut-être pas la seule motivation, mais...
En fait, c'est ça, l'idée, c'est de... La CJS, c'est vraiment un projet éducatif. C'est un endroit où des jeunes, donc qui ont entre 16 et 18 ans, qui n'ont pas forcément l'occasion de mettre un pied dans l'entrepreneuriat, c'est pas deux mondes qui se rencontrent souvent, l'entrepreneuriat et la jeunesse, où en fait, c'est un espace où ils peuvent se tester. Et aussi, c'est ça, il y a peu de jobs d'été, même de manière générale, où on peut se dire qu'on est vraiment en pilote et à la tête de son propre projet, quoi.
Il y a peut-être beaucoup des opportunités plus dans des secteurs assez productivistes, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais notamment en usine, dans le secteur de l'agroalimentaire. Là, ce sont d'autres valeurs que vous défendez dans les coopératives jeunesse de services.
Oui, l'idée, c'est vivre un peu une expérience durant l'été, de développer des compétences. Et la CJS est quand même portée par des valeurs humaines, collectives. Et donc, à la fin, souvent, la motivation première n'est pas forcément le salaire qu'on pourrait avoir dans d'autres entreprises le temps de l'été. Là, c'est de développer des compétences, de comprendre comment fonctionne une entreprise collective, pardon.
Avec une écoute particulière de votre part, vous serez là toutes les deux durant tout l'été pour les accompagner vraiment au quotidien.
Ouais, en fait, l'idée, c'est que nous, on est là vraiment pour accompagner, on est là pour apporter un cadre sécurisant pour que les jeunes puissent vraiment se tester sans conséquences trop graves. On est là pour chaperonner un peu tout ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va les former aussi. En fait, ils vont vraiment faire partie des différents comités qui constituent une entreprise, les ressources humaines avec la gestion des plannings, des congés, des horaires, tout ça. La partie marketing, comment on fait un peu marketing, comment est-ce qu'on va aller chercher des clients, comment on fait un contrat, comment on réalise une prestation, et la partie finance aussi. Donc ils vont voir comment on fait de la comptabilité dans une entreprise, comment ça marche un peu aussi économiquement une entreprise. Donc c'est des compétences qui sont plutôt transversales dans d'autres domaines, et puis tout ça dans le cadre d'un travail coopératif, ce qui est quand même assez intéressant de sentir vraiment acteur et avoir sa place dans un groupe.
Donc on comprend qu'au-delà de la rémunération, c'est vraiment l'occasion pour ces jeunes d'avoir presque un aspect un peu formation durant l'été, et puis qui peut ensuite être valorisé sur le fameux CV incontournable dans la vie future de ces jeunes-là. La coopérative jeunesse de services pour le secteur Rennes Sud, elle va prendre vie du 3 juillet au 25 août. Ce sont les mêmes dates pour celles du secteur Nord.
C'est la même chose, oui. Ouais. Pour toutes les CJS de Bretagne.
Donc sur les deux mois de ces vacances d'été, mais ce ne seront pas des vacances pour ceux qui ont participé à la CJS, on donne des exemples des services qui vont pouvoir être proposés par ces jeunes, au-delà, on l'a compris, de la vie un peu classique d'une entreprise coopérative, là. Mais quels services ils vont pouvoir être amenés à mener auprès et des particuliers et des entreprises?
Ça peut être de l'accueil sur des événements, ça peut être du jardinage, ça peut être du pet-sitting, de la garde d'enfants. En fait, c'est vraiment très varié. C'est eux qui vont un peu cibler les services qu'ils voudront proposer à la collectivité. Et puis aussi en fonction des besoins du territoire, surtout. C'est super important, voilà, que ça émane du territoire.
Et alors, ça fonctionne comment tout ce projet-là? Ils vont devoir réfléchir très vite en arrivant au début du mois de juillet, faire en fonction des entreprises et collectivités locales avec lesquelles vous êtes déjà en lien. Ça va se construire comment?
Bah en fait, c'est ça, nous, l'idée. Comme la CGS, c'est un projet court, nous, on est arrivé sur notre poste il y a déjà un mois, et donc on a déjà balisé quelques petits contrats pour être dans un démarrage plutôt facile de la CGS. Et l'idée, en fait, c'est de les accompagner beaucoup au début, ensuite de moins en moins, et que après c'est ça, ce soit eux qui aillent vraiment chercher les contrats, réaliser toutes les prestations. Voilà.
Si je vous reçois aujourd'hui, c'est dans un double objectif. D'abord, d'informer de possibles participants à la coopérative, parce qu'il reste encore quelques places pour la coopérative jeunesse de service Rennes Sud, et un petit peu plus de place sur le secteur nord. Donc on est encore là cette semaine pour candidater.
Oui, c'est ça. On a jusqu'à la fin de semaine, puisque la semaine prochaine, on commence par une formation pour tous les futurs coopérants.
Il y a des entretiens, ça marche comment une fois qu'on a envoyé son premier petit message pour prendre contact?
Eh bien, déjà, on peut nous appeler au 06 28 33 66 56. On est toutes disponibles. Après, il y a un entretien, mais qui est sous forme plus de discussion. L'idée, c'est de mettre les jeunes dans un contexte professionnel, mais quand même de permettre une discussion pour voir ce que la CGS peut aussi lui apporter.
On vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux avec une page Facebook qui est dédiée à la CJS Rennes, que ce soit sur le secteur nord ou sud. Et puis deux adresses e-mail que je donne, cjsrennesnord@gmail.com pour le secteur nord, et puis animcjsrennesud@gmail.com pour le secteur sud. Une question qui doit souvent revenir, peut-être lors de ces courts entretiens, même s'ils ne sont pas très formels, c'est combien je vais gagner, quelle rémunération je peux espérer sur ces deux mois d'été. C'est peut-être pas l'objectif principal de cette structure, de ce projet, mais la question doit revenir.
Oui, c'est sûr. Après, nous, on veut vraiment être transparente là-dessus. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas l'objectif principal, mais avec tous ces contrats, l'idée, c'est que ça va créer du chiffre d'affaires qui, à la fin de la CJS, pourra être divisé entre tous les coopérants. Et nous, ce qu'on donne pour avoir une idée, mais bon, vraiment, ça dépend de chaque année, du territoire, des contrats, du nombre de participants aussi, c'est entre 250 et 300 euros en moyenne sur les deux mois par personne.
On ne l'a pas dit, mais pour candidater, il faut venir donc de Rennes Métropole pour intégrer une de ces deux coopératives jeunesse de service ici à Rennes. Mais on le redit, il y en a aussi notamment du côté de Châteaubourg, pas très loin de Rennes, où peut-être il reste encore des places. La cérémonie d'ouverture, elle est prévue le 11 juillet à partir de 17h30 à la MJC Bricchini pour la coopérative de Rennes Sud. Ça va être un temps un peu d'inauguration. Le public pourra venir, ça va ressembler à quoi ?
En fait, cette cérémonie d'ouverture, c'est à la fois pour lancer la saison de la CJS, mais c'est aussi un premier événement où les coopérants vont devoir prendre des décisions au collectif. Donc, ils vont devoir organiser toute la soirée, proposer peut-être des animations, comment est-ce qu'ils ont envie de parler de leur projet. C'est déjà, en fait, une première prise de décision et une première mise en œuvre du travail coopératif. Donc, ça va être un moment festif, sympa, où il y aura différents acteurs de la CJS.
Avec une première, on va dire, mission événementielle pour le début de la vie, là, durant l'été, de cette coopérative jeunesse de service. On a parlé d'un premier objectif d'information auprès de participants, puisqu'il reste encore des places pour vous rejoindre. Mais notre deuxième mission aujourd'hui, c'est de passer le message aussi aux entreprises et aux particuliers qui ont des besoins et qui pourraient profiter là, de cette structure pour les réaliser.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est que si un besoin émane d'une entreprise, d'une association, d'une collectivité qui a besoin voilà, de services, bah, c'est possible de nous appeler le temps que les jeunes ne sont pas là. Sinon, ce sera les jeunes qui répondront. Et ensuite, on verra ensemble pour réaliser un devis et mettre en œuvre les services dont la collectivité ou les entreprises auront besoin.
Plutôt des entreprises et autres structures, d'ailleurs, du champ de l'économie sociale et solidaire ou pas forcément?
Bah, c'est ouvert, hein, pas forcément. On a souvent plus des structures de l'ESS parce qu'ils sont plus au courant peut-être de ces initiatives, mais c'est ouvert à toutes les entreprises.
Et vous me l'avez confié avant qu'on commence, vous avez déjà des contacts avec des bailleurs sociaux, des équipements de quartier et aussi des événements portés par des acteurs associatifs. C'est le moment où vous me dites s'il y a des choses à ajouter.
Non, bah c'est ça, comme on le disait, les services, ça peut être de l'accueil de public, du jardinage, des petits travaux qui ne requièrent pas trop de compétences professionnelles parce que ça reste des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Et je pense surtout des entreprises ou des particuliers qui ont envie de donner leur chance à des jeunes.
Je vous représente toutes les deux, Célia et Lucie. Vous êtes animatrices dans la coopérative jeunesse de services du secteur Rennes-Sud. Il y a une autre CJS de ce genre pour le secteur nord de la ville qui sera accueillie par le timbre de Morpa. Si on souhaite plus d'informations, il y a une page Facebook commune à ces deux coopératives jeunesse de services. Vous tapez CJS Rennes et vous la trouverez. Et puis deux adresses e-mail que je redonne pour vous contacter, cjsrennesnord@gmail.com et animcjsrennesud@gmail.com. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Björk et son morceau Bachelorette qu'on retrouve sur l'album Homogénique, le quatrième disque de cette artiste finlandaise qui est sorti en 1997 sur le label Mother. Björk, elle en est aujourd'hui à 11 disques, le premier sorti à l'âge de 12 ans, ça c'est quand même fou. 11 disques et puis plus de 40 années de carrière. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B qui va se poursuivre et se terminer comme chaque jour avec une recommandation. Et oui, car chaque jour en fin d'émission, je vous donne des conseils de choses à lire, à vous mettre dans les oreilles, souvent d'événements aussi. Là, on annonce le forum logement, ça se passe chez nos voisins du 4 bis information jeunesse, ici à Rennes, mercredi 28 juin de 13h à 18h. L'objectif avec ce forum, c'est d'aider les jeunes à déchiffrer les annonces, connaître les obligations, les aides et ressources existantes. Et pour ça, eh bien, l'équipe du 4 bis fait venir la caisse d'allocation familiale, le groupe Action Logement, expert dans le logement social, mais aussi des associations comme la Maison en Ville, l'association Article 1 et son programme Maison, et puis l'asso Cité et Médiation. Pour plus d'informations et pour retrouver le programme, il y a le site internet le4bis-ij.com. On rappelle qu'un point info logement jeune est ouvert tout le reste de l'année, du mardi au vendredi de 14h à 18h, c'est sans rendez-vous, et un guide gratuit qui rassemble aussi pas mal d'informations est également à retirer gratuitement sur place. L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.